C'est assez parlé du discours en lui-même. Passons à ce qui regarde la diction et nous aurons traité d'une manière complète du fond et de la forme qu'il convient de donner au discours. Je ne t'entends pas, Socrate. Il faut pourtant m'entendre. Tu y parviendras peut-être mieux d'une autre manière. Tout ce qu'on lit dans les poètes et les faiseurs de fables, n'est-ce pas un récit d'événements passés ou présents ou à venir? Sans doute. Et le récit est simple ou imitatif, ou l'un et l'autre à la fois. Je te prie de m'expliquer encore ceci plus clairement. Je suis, à ce qu'il paraît, un plaisant maître, et je ne saurais me faire entendre. Je vais, comme ceux qui n'ont pas le talent de s'expliquer, tâcher de te faire saisir ma pensée, non plus sous des formes générales, mais par des exemples de détails. Réponds-moi. Tu sais qu'au commencement de l'Iliade, Homère raconte que Chrysès pria Agamemnon de lui rendre sa fille, et que celui-ci, ayant refusé avec emportement, Chrysès supplia Apollon de le venger de ce refus sur l'armée grecque. Je sais cela. Tu sais encore que, jusqu'à ces vers, il implorait tous les Grecs et surtout les deux Atrides, chefs des deux peuples. Le poète parle en son nom et ne cherche point à détourner la pensée sur un autre que lui, comme s'il ne parlait pas lui-même. Mais après ces vers, il parle comme s'il était devenu Chrysès, et il s'efforce de nous faire croire que celui qui parle n'est plus Homère, mais le vieillard, prêtre d'Apollon. La plupart des récits de l'Iliade et de l'Odyssée sont de ce genre. Il est vrai, Socrate. N'y a-t-il pas toujours récit, soit que le poète parle lui-même, soit qu'il fasse parler les autres? Sans doute. Mais lorsqu'il parle sous le nom d'un autre, ne disons-nous pas qu'il s'efforce de ressembler, par le langage, à celui qu'il fait parler? Oui. Or, ressembler à un autre, par le langage ou les gestes, n'est-ce pas l'imiter? Oui, bien sûr. Ainsi, en ces occasions, les récits, tant ceux d'Homère que des autres poètes, sont des récits imitatifs. Fort bien. Au contraire, si le poète ne se cachait jamais, tout son poème ne serait qu'un récit simple sans imitation. Mais pour t'empêcher de dire que tu ne comprends pas comment cela peut se faire, je vais te donner un exemple. Si Homère, après avoir dit que Chrysès vint avec la rançon de sa fille et supplia les Grecs, surtout les deux rois, n'eût point parlé comme s'il était devenu Chrysès lui-même, tu sais qu'alors le récit aurait été simple au lieu d'être imitatif. Voici quelle forme il aurait prise. Je me servirai de la prose, car je ne suis pas poète. Le prêtre, étant venu, pria les dieux de permettre que les Grecs, vainqueurs de Troie, terminassent heureusement leur expédition. Puis il demanda que, par respect pour le dieu, on délivrât sa fille et acceptât sa rançon. Tous les Grecs respectaient ce vieillard et accueillaient sa demande. Mais Agamemnon s'emporta. Il lui ordonna de se retirer et de ne plus reparaître en sa présence, de peur que le sceptre et les bandelettes du dieu ne lui fussent désormais d'aucun secours. Et il ajouta que sa fille ne serait délivrée que lorsqu'elle aurait vieilli avec lui dans Argos, qu'il eût à s'en aller et à ne pas l'irriter s'il voulait retourner chez lui sans malheur. Le vieillard se retira tremblant et sans rien dire. Dès qu'il fut éloigné du camp, il adressa une prière à Apollon, l'invoqua sous ses divers noms, et lui rappelant ce qu'il avait fait pour lui plaire, les temples qu'il avait bâtis en son honneur et les victimes choisies qu'il avait immolées, il lui demanda pour récompense de faire expier aux Grecs, sous ses flèches, les pleurs qu'il répandait. Voilà, mon cher, ce que j'appelle un récit simple, sans imitation. Je comprends. Comprends donc qu'il est une espèce de récit opposé à celui-là. C'est lorsque le poète, supprimant tout ce qu'il entremêle en son nom au discours de ceux qu'il fait parler, ne laisse que le dialogue. Je comprends encore. C'est la forme qui est propre à la tragédie. Justement, je crois à présent t'avoir fait comprendre ce que tu ne pouvais d'abord saisir, savoir que, dans la poésie et dans toute composition, il y a des récits de trois espèces. Le premier est tout à fait imitatif, et, comme tu viens de dire, il appartient à la tragédie et à la comédie. Le second se fait au nom du poète. Tu le trouveras employé particulièrement dans les dithyrambes. Le troisième est un mélange de l'un et de l'autre. On s'en sert dans l'épopée et dans d'autres espèces de poèmes. Tu m'entends? Oui, j'entends maintenant ce que tu voulais dire. Rappelle-toi encore qu'antérieurement à ceci, nous disions qu'après avoir réglé ce qui concerne le fond du discours, il nous restait à en examiner la forme. Je me le rappelle. Je voulais te dire qu'il nous fallait discuter ensemble si nous permettrions au poète le récit purement imitatif ou le récit tantôt simple et tantôt imitatif. Quelles seraient les règles à observer dans ces deux espèces de récits? Ou, enfin, si toute imitation serait interdite au poète. Je pénètre ta pensée. Tu veux examiner si la tragédie et la comédie seront admises ou non dans notre état. Cela peut être et quelque chose de plus, car je n'en sais rien pour le moment. Mais il nous faut aller où nous conduira le souffle de la raison. C'est bien dit. Examine maintenant, mon cher Adimante, si les gardiens de l'État doivent devenir ou non habiles dans l'imitation, ou si cette question n'est pas déjà résolue par ce que nous avons dit précédemment, que chacun ne peut bien faire qu'une seule chose, et qu'en faire plusieurs à la fois, c'est le moyen de les manquer toutes, et de ne se montrer supérieur dans aucune. Sans doute. N'en est-il pas de même par rapport à l'imitation? Le même homme imitera-t-il moins bien plusieurs choses qu'une seule? Oui. Encore moins pourra-t-il à la fois remplir des fonctions importantes et imiter plusieurs choses et exceller dans l'imitation. Cela est d'autant moins probable que même dans deux genres qui paraissent tenir beaucoup l'un de l'autre, comme la tragédie et la comédie, il est difficile à un même homme de réussir également. N'appelais-tu pas tout à l'heure la tragédie et la comédie des imitations? Oui, et tu as raison d'ajouter qu'on ne peut exceller à la fois dans ces deux genres. On ne peut pas même être à la fois rhapsode et acteur. Non. Mais il faut même pour la tragédie et la comédie des acteurs différents. Et pourtant, tout cela est de l'imitation, n'est-ce pas? Oui. Les facultés humaines, Adimante, me semblent encore plus bornées dans leurs diverses applications, de sorte qu'il est impossible à l'homme de bien imiter plusieurs choses ou de faire sérieusement les choses qu'il reproduit par l'imitation. Rien n'est plus vrai. Si nous persistons à dire que les guerriers doivent, abandonnant tous les autres arts, se livrer tout entiers et sans réserve à celui qui défend la liberté de l'État et négliger tout ce qui ne s'y rapporte pas. Il ne faut pas qu'il fasse autre chose, ni sérieusement, ni par imitation. Ou s'ils imitent quelque chose, il faut que ce soit les qualités qu'il leur convient de posséder dès l'enfance, le courage, la tempérance, la sainteté, la grandeur d'âme et les autres vertus. Mais jamais rien de bas et de honteux, de peur qu'ils ne prennent dans cette imitation quelque chose de la réalité. N'as-tu pas remarqué que l'imitation, lorsqu'on en contracte l'habitude dès la jeunesse, se change en une seconde nature et modifie en nous la langue, l'extérieur, le ton et le caractère. Rien n'est encore plus vrai. Nous ne souffrirons pas que ceux dont nous prétendons être les instituteurs et à qui nous faisons un devoir de la vertu aillent, tout homme qu'ils sont, imiter une femme, jeune ou vieille, querellant son mari, ou dans son orgueil s'égalant aux dieux, enivré de son bonheur, ou s'abandonnant dans le malheur, aux plaintes et aux lamentations. Encore moins leur permettrons-nous de l'imiter malade, amoureuse, ou dans les douleurs de l'enfantement. Non, certes, Socrate. Ni de s'abaisser à des rôles d'esclaves. Non plus. Ni sans doute à ceux d'hommes méchants et lâches, qui agissent tout au contraire de ce que nous demandons, qui se querellent, s'insultent et tiennent des propos obscènes, soit dans l'ivresse ou de sang-froid. Ni enfin d'imiter rien de ce que font et disent de pareils gens contre eux-mêmes et contre les autres. Je ne crois pas non plus qu'ils doivent s'accoutumer à imiter le langage et la conduite des fous. Il faut connaître les fous et les méchants, hommes et femmes, il ne faut ni faire, ni imiter ce qu'ils font. Tu as raison, Socrate. Doivent-ils imiter encore les forgerons et les autres ouvriers, les rameurs, les patrons de galères et tous les gens de cette classe? Comment le devraient-ils, puisqu'il ne leur sera pas même permis de s'occuper de ces métiers? Ou bien imiteront-ils le hennissement des chevaux, le mugissement des taureaux, le bruit des fleuves, de la mer, du tonnerre, et les autres choses semblables? Non, puisque la folie leur est défendue, ainsi que l'imitation de ses actes. Si donc je te comprends bien, il est une manière de s'exprimer et de raconter qu'adoptera l'homme bien-né lorsqu'il aura quelque chose à raconter. Et il en est une autre à laquelle il faudra bien que s'en tienne celui qui n'a reçu ni la même nature, ni la même éducation. Quelles sont ces deux manières de raconter? Je crois qu'un honnête homme, lorsqu'il est amené dans un récit à rendre compte de ce qu'a fait ou dit un homme semblable à lui, le représente volontiers dans sa personne et ne rougit pas de cette imitation. Mais c'est surtout lorsque celui qu'il imite montre de la sagesse et de la fermeté, et non lorsqu'il est abattu par la maladie, vaincu par l'amour, dans l'ivresse ou dans quelque situation déplorable. A-t-il au contraire à représenter un homme au-dessous de lui par les sentiments? Jamais il ne s'abaisse à l'imiter sérieusement, ou c'est en passant, lorsque cet homme aura fait quelque chose de bien. Et encore il en rougit, parce qu'il n'est pas accoutumé à imiter cette sorte de gens, et qu'il souffre de se mouler, pour ainsi dire, sur des hommes qui valent moins que lui, et de prendre les mêmes formes. Si cette imitation n'était un pur badinage, il la repousserait avec mépris. Cela est vraisemblable. Son récit sera donc tel que nous l'avons trouvé dans Homère, en partie simple, en partie imitatif, de manière cependant que l'imitation ne paraisse qu'à de longs intervalles. Oui, c'est ainsi que doit parler un homme de ce caractère. Pour l'autre, plus il sera vicieux, plus il sera porté à tout imiter. il ne croira rien au-dessous de lui. Ainsi, tout ce que nous avons énuméré tout à l'heure deviendra pour lui l'objet d'une imitation sérieuse et publique, et le bruit du tonnerre, des vents, de la grêle, des essieux, des roues, et le son des trompettes, des flûtes, des chalumeaux, des divers instruments, et l'aboiement des chiens, le bêlement des brebis, le chant des oiseaux, et son discours ne sera presque tout entier qu'une imitation par la voix et par les gestes, où il entrera à peine quelque chose du récit simple. Cela doit être. Tels sont les deux genres de récits dont je voulais parler. Fort bien. Or, le premier genre comporte peu de changements, et lorsqu'une fois on aura donné à un discours l'harmonie et le rythme convenables, il faudra, si on veut bien dire, très peu changer de ton et maintenir presque invariablement la même harmonie et le même rythme. C'est comme tu dis. Dans le second genre, n'est-ce pas le contraire? Pour bien exprimer ce qu'il doit dire, le récit n'a-t-il pas besoin de toutes les harmonies et de tous les rythmes, parce qu'il change de toutes les manières? En effet. Mais tous les poètes, et en général ceux qui ont à parler, emploient l'un ou l'autre de ces genres, ou un troisième qu'ils forment du mélange des deux autres. Il le faut bien, oui. Que ferons-nous donc? Admettrons-nous, dans notre état, ces trois genres de récits, ou adopterons-nous l'un des trois? Si mon avis l'emporte, nous nous arrêterons au récit simple qui imite la vertu. Oui, mais, mon cher Adimante, le récit mélangé a bien de l'agrément, et le récit opposé à celui que tu choisis plaît infiniment aux enfants, à leurs maîtres et au peuple. Oui, je conviens qu'il est très agréable. Tu diras peut-être qu'il ne s'accorde pas avec le plan de notre état, parce qu'il n'y a point chez nous d'hommes qui réunissent les talents de deux ou de plusieurs hommes, et que chacun n'y fait qu'une seule chose. Sans doute, Socrate. Voilà pourquoi c'est une chose particulière à notre état que le cordonnier y est simplement cordonnier, et non pas, outre cela, pilote. Le laboureur, laboureur, et non pas en même temps juge. Le guerrier, guerrier, et non pas encore commerçante, et ainsi des autres. Il est vrai, Socrate. Si jamais un homme habile dans l'art de prendre divers rôles et de se prêter à toutes sortes d'imitations venait dans notre état et voulait nous faire entendre ses poèmes, nous lui rendrions hommage comme à un être sacré, merveilleux, plein de charme, mais nous lui dirions qu'il n'y a pas d'homme comme lui dans notre état et qu'il ne peut y en avoir. Et nous le congédierions après avoir répandu des parfums sur sa tête et l'avoir couronné de bandelettes, et nous nous contenterions d'un poète et d'un faiseur de fables plus austère et moins agréable, mais plus utile, dont le ton imiterait le langage de la vertu et qui se conformerait, dans sa manière de dire, aux règles que nous aurions établies en nous chargeant de l'éducation des guerriers. Tel sera notre choix, oui, si nous en avons un à faire. Il semble, mon cher ami, que nous avons traité à fond cette partie de la musique qui a rapport aux discours et aux fables, puisque nous avons montré quelle doit en être et le fond et la forme. Je suis de ton avis.